La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
De mieux en mieux.
Hop, bah bonjour à tous et bienvenue à la midinale du 6 décembre 2021.
On a bon.
Voilà, on a bon. Et autour de la table, aujourd'hui avec moi, il y a la magnifique Steph.
Yeah.
Seb.
Salut.
Asgard à la technique. Et Nico en observateur de la technique. Et votre serviteur Pedro pour animer. Donc aujourd'hui, nous allons donc démarrer. Tu m'entends pas du tout ?
Ah, t'es loin. Ah. Tu sais, les micros, c'est un point à distance.
Aujourd'hui, nous allons donc vous parler de thèmes vastes et variés. Je vais donc commencer par le meeting de Zemmour.
Voldemort.
Qui a eu lieu, oui, Voldemort. Si
tu oui, c'est faire. Interdit.
Zorglub.
Chez nous. Zorglub.
Zorglub. Voldemort. J'aime bien Zorglub. Qui a eu lieu à Villepinte ce week-end avec l'évacuation de journalistes. J'en reviendrai plus en détail. Seb nous parlera de la Guadeloupe et des luttes en cours sur l'île. Après, nous ferons une petite pause muse. Et après, Asgard enchaînera avec le LAP, donc le lycée autonome de Paris. Un petit sujet sur les EPR chinois.
Et les EPR en général.
Les EPR en général, la lutte contre Amazon. Et après, on vous fera un petit agenda.
Après, avec une autre pause musicale voilà. Entre les deux.
Donc,
c'est cool ça.
Ouais, c'est cool. Il y a de quoi causer aujourd'hui.
Ouais. Allez, vas-y, c'est à toi.
Ouais, alors aujourd'hui, moi je démarre avec Zorglub, le sinistre. Et donc, sur son meeting qui a eu lieu à Villepinte, là, ce week-end, qui a été magnifique, on peut dire ça, parce que le premier truc qu'ont fait ces militants, c'est de virer des journalistes qui étaient accrédités pour avoir accès. Donc, parce que, comme tout le monde le sait, hein, on peut. Retransmettre tous les hommes politiques et toute parole publique. Alors, bien sûr, il faut une accréditation. Hein. Et tout ça, c'est un peu compliqué à avoir normalement, mais c'est l'équipe de campagne de Zemmour qui file les accréditations aux journalistes. Et donc, bah, là, ça va pas louper. Hein. Comme on sait, ces gens-là sont très intelligents, sont très bien éduqués, sont sympas comme tout. Et ils ont viré l'équipe technique du Quotidien, donc j'avais préparé un petit extrait de la vidéo qu'il y a sur le HuffPost. Voilà, donc est-ce que... Non, tu l'envoies.
Allez, ça recule. Allez, on recule. Allez, on recule, messieurs.
Non, on n'est pas des bêtes. On
recule, s'il vous plaît. On recule, s'il vous plaît. Boum.
Thank you.
sortir là? C'est qui se fait sortir là?
Voilà donc.
Une vraie ambiance de stade de foot, quoi. Ouais, pire même.
Sans la vidéo, ça parle pas, donc je vous encourage à aller la voir, bien sûr.
Il manque le passage que j'ai préféré, c'est quand t'as toute la salle, là, comme ils reprennent la Zemmour ouais. président, mais à un moment, t'as toute la salle qui gueule quotidien, facho, quotidien, collabo. J'ai trouvé ça très fort de la part de facho de traiter les autres de facho, moi.
En gros, on est sur une thématique d'extrême droite de base, finalement. Ils sont en train de dire que c'est la presse qui les muselle.
Ah bah c'est le contre-pouvoir qui, voilà. auquel ils veulent enlever les pouvoirs.
Donc, que soi-disant, le quotidien étant un... Pour les amateurs de Zemmour, le quotidien, de toute manière, représente l'ennemi, puisque c'est un journal de gauche. Et forcément, voilà un peu à quoi on va s'attendre pendant la campagne présidentielle. Moi, j'ai hâte, ça va être super. Je pense qu'on va s'éclater, parce que déjà, les thèmes de son meeting étaient nuls. Enfin, on ne va pas aborder... trop les thèmes abordés, mais ça va être...
Non, on les connaît.
L'immigration.
Le retour de la peine de mort, voilà. La fin du mariage pour tous.
C'est ça. Et moi, ce qui me fait un peu peur, finalement, c'est que on n'a pas démarré la campagne, que là, on voit déjà les relents, en fait, de l'extrême et de l'extrême droite dans ce qui est de pire. C'est-à-dire, et en plus, ces gens-là, ils sont... Enfin, ce qui fait peur dans cet extrait-là, c'est qu'on en arrive quand même à ce que des journalistes soient traités de fachos et de collabos, quoi. Alors que le mec qui anime ce meeting est un facho, fait l'apologie de Pétain, parce que n'oublions pas qu'il adhère à la thèse de l'épée et du bouclier. Hein. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette thèse, c'est pas compliqué. En gros, c'est une thèse de l'extrême droite profonde, comme quoi, pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la partie de la collaboration entre Pétain et les Allemands, De Gaulle, c'était l'épée. Donc l'homme, le pourfendeur, la résistance, et Pétain, c'était le bouclier qui aurait protégé le peuple juif de la déportation par les Allemands. Alors en fait, c'est complètement faux, hein, parce que de toute manière, le gouvernement de Pétain a collaboré, c'est prouvé, tous les historiens le savent, c'est documenté, il y a des livres. Et voilà, donc on en arrive quand même à des gens qui vont voir un meeting politique, il y a 10 000 personnes dans la salle, et les premiers trucs qui scandent, c'est qu'ils traitent un média de collabo.
Ouais, puis ce qui est inquiétant aussi, c'est que là, maintenant, ils le font de façon ouverte. Ils n'ont rien à secouer. C'est ce qu'on voit un peu dans la rue ou un peu partout depuis quelques mois. C'est qu'ils ne se cachent plus.
C'est ça.
C'est ouvert. Et alors, je ne sais pas si tu comptais en parler. Donc, il y a le fait de virer les journalistes. Déjà, ça attaque quand même un peu la liberté de parole, l'expression, tout ça. Enfin, bref. Le travail libre des journalistes. Et il y a aussi eu des activistes, enfin des représentants d'SOS Racisme, qui sont venus dans la salle de façon totalement pacifiste, juste pour plaider la cause antiraciste, quoi, pour avoir des messages antiracistes. Ça s'est fini en baston. C'est-à-dire qu'ils se sont fait frapper, ils se sont pris des chaises sur la gueule, et il y a quand même deux militants d'SOS Racisme qui ressortent avec des plaies ouvertes, quoi. Donc là, je sais pas, on laisse faire, et à un moment, c'est quoi le délire, quoi, c'est...
Alors déjà, il y a ça, et puis en fait, ce qui fait peur aussi, c'est que dans la rhétorique des orglubiens, on va les appeler comme ça, je sais pas comment les appeler ces gens-là, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a un retournement du cerveau, dans le sens où ils se servent finalement des arguments antifascistes, pour, en plus, ils sont complètement convaincus que finalement, l'ennemi en face d'eux, c'est
eux,
une
fachos.
Gauche radicale, et c'est eux les fascistes. Moi, quand j'ai vu l'argumentaire de ces gens-là, mais ça fait peur. Hein. Et ils s'accaparent, en fait, tout ce qui est un peu ce qu'on... En 1933, c'était la social-démocratie. Et en fait, ils sont en train de reproduire ce mouvement-là en disant que c'est eux les vrais patriotes, c'est eux, ils aiment la France, le lever de drapeau, tout ça, c'est magnifique. Mais enfin bon... Donc en gros, il y a besoin d'être raciste maintenant pour aimer la France. Quoi. C'est ça qui fait peur. Enfin... Aimer la France, je ne sais pas ce qu'ils aiment vraiment, parce que eux, ces gens-là, ils ne savent pas. Enfin, je vais être honnête, hein, ils n'aiment pas la France. Ils aiment une vision de la France, c'est-à-dire une vision complètement déformée par un mec qui leur bourre le mou et qui leur fait croire que la France, c'est le bon Gaulois qui est venu il y a 1800 ans, qu'on est tous blancs de sang pur. Enfin, ça fait peur, quoi. C'est qui en France peut dire qu'il n'a pas de... qui est 100%... D'ailleurs, ça veut dire quoi 100% français? Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais moi, c'est... Non.
Toi, t'arrives à t'embourber, toi.
Mais non, mais c'est un truc de fou. C'est... Ouais. Leur rhétorique fait peur, en fait.
Je veux bien. T'avais...
Je pense qu'avoir fait le tour, après, il y avait... De toute façon, ça fait le parallèle avec la vidéo de sa rentrée en campagne là, qu'il a postée sur YouTube, pour laquelle, d'ailleurs, il est attaqué en justice maintenant par tous les gens dont il a utilisé l'image sans demander son avis, parce qu'il est au-dessus des lois, bien
sans
sûr.
Sans payer les droits d'image, surtout.
Voilà. Et c'est ce même lien où il réutilise des images nauséeuses. Enfin, c'est horrible. Mais bon, je pense qu'on va en parler. Ça va durer 6 mois encore. Hein.
On va peut-être pas en parler 6 mois, parce que ça va nous saouler, ça englube tous les lundis. Quoi.
Bah, du coup, moi, je veux bien lire une tribune qui a été publiée dans Le Monde le 2 décembre. Elle a été écrite par un historien, directeur de recherche au CNRS. Il enseigne à Sciences Po. Il est spécialiste de la survie des Juifs de France. Il s'appelle Jacques Semelin. Ses propos sont autrement plus documentés qu'un abruti qui fait des chroniques pour CNews. Et justement, Jacques Semelin va interpeller Éric Zemmour sur sa rhétorique et son utilisation, sa réécriture de l'histoire. Je vais vous lire la tribune. Vous vous présentez à la présidence de la République et vous commencez par tromper les Français sur un des points majeurs de l'histoire de France. Durant l'occupation nazie, si beaucoup de Juifs n'ont pas été déportés, ce n'est pas grâce à Vichy, mais en dépit de Vichy. Dès 2014, vous vous étiez emparé de cette question jusqu'alors peu travaillée par les historiens. Pourquoi une telle proportion de Juifs, 75%, et en particulier de Juifs français, 85%, ont-ils pu survivre en France? Vous qui vous targuez de culture historique, vous ne pouviez pas ignorer ces données corroborées par plusieurs de mes pairs. Au lieu de cela, vous avez pioché des éléments très contestables chez un auteur peu reconnu par la communauté scientifique, tout en attaquant des historiens aussi rigoureux que Serge Klarsfeld. Pour faire court, j'évoquerai les exemples du Danemark et de la France, les cas les plus représentatifs de la collaboration d'États. Dès 1940, le gouvernement danois, pourtant proche de l'occupant, déclare que Berlin ne peut toucher aux Juifs, faisant valoir que ceux-ci font partie intégrante de la communauté nationale. Copenhague s'en tiendra à cette position qui rendra possible le sauvetage des Juifs de ce pays. Pétain, tout au contraire, publie en 1940, puis en 1941, un premier puis un second statut des Juifs qui les met au banc de la société. Il en dénaturalise plusieurs milliers et rend légal l'internement des Juifs étrangers dans des camps. Tout est à l'avenant jusqu'à ce que, par étapes successives, le régime en vienne à arrêter des Juifs français pour les livrer aux nazis. Il est vrai que Vichy a d'abord visé en priorité les Juifs étrangers, comme l'atteste la tragédie du Veldiv. De concert avec l'occupant, les policiers français ont pour mission d'en arrêter au moins 27 000. Mais ils en capturent exactement 12 884. Ce sont bien entendu 12 884 de trop, mais que s'est-il passé? Paris a connu un mouvement de solidarité spontanée envers ses Juifs, pour l'essentiel étrangers, grâce à des fuites en provenance de la préfecture de police. Des milliers d'entre eux ont réussi à échapper aux mailles du filet avec la complicité d'une population choquée, qu'on arrête femmes, enfants et personnes âgées. Cette aide est d'autant plus remarquable que la population était traversée par des préjugés xénophobes. Ce soutien aux Juifs étrangers s'exprime à nouveau en zone libre quelques semaines plus tard, quand plusieurs hauts prélats catholiques élèvent des protestations, dont la plus connue est celle de l'archevêque de Toulouse, Jules Saliège. Le 23 août 42, les églises de ce diocèse résonnent de son cri. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux. Vous oubliez d'en parler, monsieur Zemmour, alors que ces mots sont l'honneur de la France au pire moment, celui du génocide. Le général de Gaulle en a d'ailleurs vu l'importance historique puisqu'il a fait Monseigneur Saliège compagnon de la Libération le 7 août 45, au motif qu'il s'est opposé à l'ennemi en le dénonçant, du haut de la chaire et dans ses lettres pastorales. Vous omettez aussi d'en parler car cela ne va pas dans votre sens. Celui d'une supposée connivence entre Pétain et De Gaulle, vieille rengaine de l'extrême droite. Quant aux Juifs français, il est vrai qu'ils ont été moins déportés. Non parce qu'ils auraient servi de monnaie d'échange contre les Juifs étrangers, mais parce que Vichy savait que l'opinion n'aurait pas compris leur arrestation et leur livraison à l'occupant. Par un lent processus qui datait au moins de la Révolution française, ces citoyens juifs avaient réussi pleinement à s'intégrer culturellement. L'entreprise de destruction par Vichy de cette intégration des Juifs à la nation n'a donc qu'en partie réussi. Elle a été incapable de briser totalement les liens sociaux qui existaient depuis près de 150 ans entre ces Français israélites et leurs compatriotes. Là encore, la société française a donc agi comme un garde-fou, retenant ses dirigeants de s'enfoncer davantage dans cette entreprise criminelle. Ce n'est pas Pétain qui a sauvé les Juifs français. C'est l'intégration séculaire des Juifs à la nation qui les a rendus moins arrêtables. Cependant, partout en Europe, Berlin acceptait que les gouvernements locaux déportent d'abord les Juifs étrangers pour faciliter ensuite la livraison des Juifs nationaux, ce qui s'est produit en France, surtout en 1944. Environ 24 500 d'entre eux ont quand même été exterminés, ce qui reste considérable. Et le bilan aurait été pire si l'occupation s'était prolongée. Il n'y a pas de quoi s'en réjouir. Et opposer Juifs français et étrangers pour les besoins de votre cause contre tous ceux dont la France, selon vous, devrait aujourd'hui se débarrasser. Car en réalité, votre vision de Vichy, sans base historienne, est construite pour justifier vos propos sur le trop grand nombre d'étrangers dans notre pays. Au discours antisémite des années 30, qui dénonçait le juif comme un corps étranger à la nation, vous substituez celui du musulman, et donc de l'islam, qui serait en train de coloniser la France et l'Europe. Et vous affirmez que le peuple français est en danger et doit se défendre. Cette rhétorique identitaire, je la connais par cœur. Elle est celle de la désignation d'un autre entre eux qu'il s'agit de combattre et d'éradiquer, d'un « eux » malfaisant, qui ne serait pas comme nous, parce qu'il n'est pas de la même religion, de la même origine. Un autre entre eux qui aurait tendance à proliférer, qui ne respecterait pas nos coutumes et qui violerait nos femmes. Cette rhétorique est celle de l'entrepreneur identitaire qui, jouant sur la peur d'un autre menaçant, en appelle à un sursaut du « nous », ici les Français blancs, contre eux, ces étrangers basanés. J'ai vu poindre des discours analogues en ex-Yougoslavie, chez les Serbes nationalistes, contre les musulmans de Bosnie, perçus comme alliés de la colonisation turque. Je l'ai vu aussi au Rwanda, à travers les discours d'idéologues Hutus, qui dénonçaient la supposée suprématie des Tutsis venus coloniser le pays. Je l'ai encore identifié dans d'autres conflits à travers le monde, qui ont pu conduire au massacre, voire au génocide. Monsieur Zemmour, vous avez ainsi le profil type de cet entrepreneur identitaire, qui, à partir d'un usage politique de l'histoire de France et du monde, propose un discours séduisant à des gens déboussolés. Car cette focalisation de l'attention sur un groupe défini comme ennemi permet de surmonter leur peur. Désormais, ils savent qui haïr. En cela, vous mettez en péril le futur de la France. L'histoire montre en effet que cette confrontation identitaire entre un « eux » et un « nous » peut entraîner un pays à la guerre civile et au massacre. Vous ne cessez d'annoncer la guerre civile qu'eux sont censés fomenter, alors que par votre discours soigneusement ajusté, vous faites tout pour la provoquer.
Mais merci Steph, c'est cool. Ça fait parfaitement le parallèle avec son discours.
C'est Jacques Semelin.
Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. De
je
façon.
Crois qu'il a tout dit. Ouais, voilà. Il l'a mieux fait que nous.
C'est son métier.
Voilà. Nous, on est là pour remonter les bonnes paroles.
Non, de toute façon, après, le seul truc qui est fou, c'est que des gens... enfin, on est en 2021, il y a encore des gens pour adhérer à ce genre de thèse, hein, mais bon.
Il y en a de plus en plus. Je vois aussi qu'il y a des anciens gilets jaunes qui adhèrent aux thèses de M. Zemmour, quand même. On avait un doute sur elle à l'époque. La fameuse Jacqueline Mourot.
Ah oui, j'ai lu ça.
Si vous vous rappelez d'elle.
J'ai lu ça ce matin, c'est celle
de... La gilet jaune qui était avec l'écharpe bleue du genre Manif pour tous, quoi.
Elle est du Morbihan, elle, non ?
Ouais, et alors Jacqueline Mourot et Benjamin Cauchy, les anciens gilets jaunes, se mettent à soutenir Zemmour. On est bien.
Ouais, ça fait peur.
Ouais. Voilà, je vois pas le rapport en plus entre les Gilets jaunes et Zemmour. Mais... Enfin, ces gens-là se sont perdus, quoi. Ouais. Il y en a plein qui se sont perdus, faut qu'ils réfléchissent un peu.
C'est le bourrage de mots médiatiques, en fait.
Il va être temps de resituer la lutte, quoi.
C'est ça. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour sur Zorglub.
Ouais, pour aujourd'hui, c'est bon.
Allez, on enchaîne avec la Guada.
On enchaîne avec ce qui se passe aux Antilles, où ça, comme vous avez pu suivre, ça avait démarré en Guadeloupe. Donc un mouvement qui est parti du fait que l'État a voulu créer une obligation, enfin a mis en place l'obligation vaccinale pour les pompiers et les soignants dans les DROMCOM. Oui, parce qu'on ne dit plus DOMTOM, on dit DROMCOM, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer. Voilà, c'est pour l'histoire de se mettre un peu à jour. Donc tout ça, c'est de là d'où est parti le mouvement social en Guadeloupe. Et donc je vais partir d'un article de Basta qui titre « En Guadeloupe, de l'obligation vaccinale à la crise sociale, la piqûre est devenue politique ». Et qui essaye d'expliquer, qui le fait plutôt bien, pourquoi les Guadeloupéens refusent cette obligation vaccinale. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire ou entendre en métropole, on nous les fait passer pour des anti-vax purs et durs. Alors qu'en fait, ils ne sont pas que anti-vax, enfin ils ne sont pas un peu forcément, mais ce qui les dérange plus, c'est l'obligation vaccinale. On va revenir sur le truc d'obligation, quoi. Parce qu'en fait, derrière cette obligation, la défiance envers l'État français en général qu'il y a dans les Antilles, qui se sentent bien abandonnés. Donc voilà. Dans cet article, on nous parle dans les deux territoires, que ce soit Guadeloupe ou Martinique, la couverture vaccinale elle reste toujours faible. Ils sont à moins de 50% en général de vaccination complète. Et pourquoi ils en sont là, quoi ? Parce que... Alors, il y a plusieurs témoignages dans cet article. Une infirmière qui dit qu'on nous ment sur l'efficacité de ce vaccin. Et d'ailleurs, elle me fait marrer parce qu'elle rajoute « Notre meilleur argument, c'est le Premier ministre Jean Castex qui nous l'a donné. Il doit avoir reçu 2, 3, 70 doses et il est quand même positif au virus. » Bon, là, effectivement, c'est dur de lui donner tort, quoi. Faut quand même savoir que 54% des Guadeloupéens... C'est un institut de sondage qui l'a fait, Qualistat, qui est basé aux Antilles. 54% des Guadeloupéens disent qu'on entend, sont contre ce vaccin, parce qu'ils entendent qu'un tel est mort sur du vaccin, un tel a développé de dramatiques effets secondaires, etc. Donc ça fait tache d'huile sur les réseaux sociaux, bouche à oreille et tout. Et du coup, ils refusent, quoi. Mais pourquoi ils refusent, en fait ? Parce que... Ça exprime quoi l'obligation vaccinale là-bas ? Ben, ça exprime encore quelque chose que l'État français veut imposer aux Antillais, quoi. Et je pense que l'État français leur a déjà imposé beaucoup de choses. Et en fait, c'est ça, ils se battent contre cette obligation, quoi. Donc c'est vraiment une tache d'huile, cette obligation vaccinale, mais qui cache un mal-être plus profond que ça, hein. C'est l'abandon de la part de l'État français... une politique, enfin, des services publics là-bas, c'est...
C'est un ressentiment global, hein.
Ah oui, c'est complètement un sentiment global, quoi. C'est, donc, bon, voilà, tu vois, par exemple, ils ont quand même subi, et l'État français n'a rien fait, un empoisonnement au chlordécone entre 1972 et 1993.
Ouais.
Hein, on a continué à utiliser le chlordécone sur ces territoires, alors qu'on savait très bien, je crois que c'était au niveau de l'OMS, avait dit c'est interdit, c'est cancérigène.
En fait, c'est pire que ça, c'est qu'en fait, il y a eu une interdiction en métropole, donc en France, c'était interdit.
Et une extension là-bas, quoi.
Et là-bas, il y a eu une tempête aussi qui a rasé beaucoup de plants de bananes, et pour relancer ça, mais c'était les propriétaires des terres. Donc, c'est-à-dire les riches, hein, c'est ceux qui ont les terres, c'est pas les exploitants. Eux, ils sont pas dans l'exploitation agricole, qu'on fait du lobbying. Et par lobbying, en fait, il y a eu une dérogation sur le chlordécone, alors que tout le monde savait que le chlordécone, c'était ultra toxique. Et maintenant, en fait, ils ont ce ressentiment par rapport à ça, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été sacrifiés, je faisais même pas une impression, ils ont été sacrifiés sous l'égide économique, finalement, pour faire plaisir en plus aux puissants propriétaires terriens guadeloupéens, puisque c'était pas les ouvriers agricoles, hein, qui ont demandé la dérogation, c'était... Voilà, ils ont, en gros, on a fait des enjeux économiques, un choix sanitaire, hein, mais comme d'autres produits chimiques phytosanitaires. Hein, le Roundup, ça fait des années que ça dure. Le chlordécone, ça a été la même. Sauf que le problème, en plus de tout ça, c'est qu'on connaissait les effets secondaires, et maintenant, en plus, le sol étant pollué, il y a eu un autre article, on n'en a pas trop parlé, où j'ai découvert ça, finalement, c'est qu'en fait, on leur demande des analyses de sol pour pouvoir vendre leurs produits, quoi. Donc c'était un truc de fou. Si le sol n'est pas analysé, ils peuvent pas vendre leurs produits. Et si c'est pollué au chlordécone, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et en plus le chlordécone, en plus du problème sanitaire que ça engendre, c'est aussi l'explosion des cancers. Enfin là, c'est pas pour rien quand même qu'ils annoncent qu'ils vont reconnaître certaines catégories de cancers comme maladies professionnelles. Enfin, c'est un peu tard, mais donc forcément, quand on t'a imposé un truc comme ça, le ressentiment envers on va dire la métropole et le gouvernement qui pense qu'à toi qu'au moment des élections, il est lourd, quoi.
Ouais. Oui, et puis bon, voilà, c'est aussi le sentiment qu'ils ont là-bas. C'est comme ils ont été abandonnés sur le chlordécone, ils disent en gros, l'État s'en est foutu complètement de nous sur l'affaire du chlordécone. Alors pourquoi, soudainement concerné par notre santé, s'acharne-t-il à rendre ce vaccin obligatoire, quoi ? Donc voilà, c'est un peu la contradiction. Et dans l'article aussi, il précise que bon, c'est des témoignages toujours de là-bas qui disent que s'il n'y avait pas eu l'obligation vaccinale, il y a des soignants qui disent sans ça, les gens se seraient davantage fait vacciner. C'est quand même un truc de ouf, quoi. C'est vraiment le coût de l'obligation qui pose problème, quoi. Mais il faut quand même préciser que contrairement à ce qu'on entend toujours en métropole, il y a quand même 90% des soignants hein, hospitaliers et libéraux de Guadeloupe qui sont complètement vaccinés, même s'ils disent qu'une bonne partie l'a fait contrainte, la mort dans l'âme, parce que pour eux en fait, se faire vacciner, il faut qu'ils le fassent sans que ça se sache, quoi. Ils veulent pas que voilà, ils voudraient pas que la communauté antillaise sache qu'ils sont fait vacciner, parce que pour eux accepter le vaccin, donc cette obligation, c'est comme trahir la cause, quoi. Vous voyez quand même jusqu'où ça va, quoi. Mais on comprend bien le pourquoi maintenant ils refusent ce vaccin, quoi. Enfin, le vaccin, enfin cette obligation. Je reviens bien sur le terme, l'obligation vaccinale. Et donc, comme je disais au départ, tout ça, c'est une goutte d'eau, en fait. Hein. C'est ce qui fait que ça a entraîné ces barrages, des ronds-points, des barricades, des pillages, enfin tout un tas d'insurrection hein, qui s'est mis en place. Et quelque chose qu'on ne sait pas trop non plus, qu'on ne nous dit pas, c'est qui fait ces barrages, qui sont sur ces barrages. On nous les fait passer pour des voyous, comme d'habitude, hein, c'est des gros vilains, quoi. En fait, non, il y a aussi beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes de 15 ans sur les barrages, et ça, quand on l'apprend, on se dit, tiens, mais pourquoi ? Il y a des jeunes de 15 ans, moi j'en ai un jeune de 15 ans, je ne le vois pas encore de lui-même aller sur les barrages, mais là-bas, ils prennent conscience un peu plus vite, probablement parce qu'il y a aussi un problème avec l'école là-bas, et encore plus loin, les formations qu'on leur propose, et surtout les débouchés, il y a un taux de chômage qui est quand même assez élevé aux Antilles. Et donc...
Le taux de chômage chez les jeunes, là, dans la classe 18-26 ans, c'était presque 45%.
Voilà, on dit tout comme ça. Hein. Donc, c'est sûr qu'avec ça, ils ont un bel avenir de prévu sur place.
Et en plus, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de jeunes, parce qu'on te dit, ouais, puis ils vont pas à l'école jusqu'au bout, machin, tout ça, vivent des allocs, sous le soleil, ça c'est ce que t'entends beaucoup en métropole, mais en fait, non, ils sont tous, il y a beaucoup de diplômés, des bacs plus 5, des... Enfin voilà, sauf qu'ils n'ont pas de perspective sur l'île, quoi. Donc...
Et donc, comment, moi, après, je suis tombé sur cette info qu'il y avait des enfants sur les barricades et tout. C'est tout bête. C'est parti d'un post que j'ai vu sur Facebook, mais qui a été diffusé dans un groupe WhatsApp aux Antilles, qui s'appelle WhatsApp local antillais. Et qui, c'était un petit tract en 5 points. Qui appelait le peuple guadeloupéen, enfin qui dit le peuple guadeloupéen est prêt à se battre, et je l'ai trouvé super bien fait. C'était des recommandations à la population qui ont été envoyées à partir du lundi 22 novembre en disant le monde entier nous regarde, il est temps de leur montrer qui est le peuple guadeloupéen. Et en créole, nous fin blague, la guéqué, commencez, allez. Je l'ai peut-être très mal dit, excusez-moi. Donc il y a 5 points dedans qui sont intéressants. Il y a le premier point qui parle des barrages dynamiques, qui préconise aux gens de ne pas contrer les forces de l'ordre. Hein. Ils sont armés et ont reçu pour ordre de neutraliser toute lutte. Donc ils disent laissez les forces de l'ordre débarrasser, nettoyer, tout ça, et revenez quelques minutes après pour rebarrer de nouveau. Voilà, ils préconisent de laisser passer les urgences médicales. ainsi que les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, afin de ravitailler la population. Comme quoi, voilà, on a beau dire ce qu'on veut, ils sont pas cons, hein, ils savent où sont leurs intérêts, quoi, leurs intérêts. Et alors, il y a la partie 3 sur la solidarité, voilà, de rester unis en tant que peuple antillais. Et alors, comment je suis tombé sur le prochain reportage, là, un extrait que j'ai été chopé sur Canal 10, c'est parce qu'il y a le point 4 qui parle d'informations réelles, où il préconise donc aux gens éviter de répondre à des interviews des autres médias subventionnés par Papa Macron. Notre seul média national est Canal 10. Suivez les lives de Canal 10, appelez maintenant pendant les émissions pour vous exprimer, etc. etc. Ne laissons pas les médias décrédibiliser notre cause. Nous faisons confiance à nos journalistes. Donc je suis allé m'intéresser à ce média, Canal 10, qui est donc une chaîne locale hein, en Guadeloupe. Et je suis tombé sur une émission qui s'appelle ZDL News. Enfin, c'est leur émission journalière hein, d'information. Donc avec des chroniqueurs qui parlent en français. Bon, de temps en temps, comme ils donnent la parole aussi bien, bon, effectivement aussi à des élus locaux. Hein, mais c'est marrant parce que, allez voir, c'est vraiment marrant la façon dont sont traités les élus dans les médias là-bas. C'est-à-dire que le chroniqueur n'hésite pas à leur poser des questions qui leur rentrent dedans, quoi, et qui les mettent face à leurs contradictions, chose qui n'arrive pas du tout, nous, sur le territoire, enfin, sur la métropole, ouais. Dans les médias, ça, c'est fini, quoi. Donc déjà, il y a ce point-là. Il donne aussi la parole, effectivement, à beaucoup de citoyens antillais, quoi. Donc c'est parfois et souvent en créole, donc personnellement, je ne comprenais pas tout, mais il y a quand même des choses intéressantes. Et donc, je suis tombé sur une interview du président de la FAPEG, la Fédération des associations des parents d'élèves de Guadeloupe, qui s'appelle Michel, je ne sais plus son nom, je suis désolé, je l'ai mis dans le titre, Michel Gédéon, ouais, c'est dans le titre du podcast. Donc Michel Gédéon qui est interviewé et ça part du fait qu'au moment des blocages, ils ont fermé les écoles. Parce qu'ils avaient peur que les parents et les enfants se retrouvent bloqués sur les routes et tout. Donc, bon, je pense que c'était assez logique de fermer les écoles à ce moment-là. Donc, vous allez écouter l'interview. C'est un extrait, hein. J'ai coupé un peu parce que c'était un peu plus long. On vous mettra les liens vers cette chaîne locale et cet extrait pour que vous l'ayez en entier. Et donc, il part, voilà, la première question, c'est est-ce que vous attendiez à ce que les écoles soient fermées ? Et vous allez voir que bah, Michel Gédéon, il va assez vite parler plus loin que les fermetures d'écoles et parler du mal profond qui existe en Guadeloupe pour les jeunes. On l'envoie et on vous retrouve après.
Nous allons quand même aller vers un autre invité prévu dans le ZTL de ce jour, Monsieur Michel Gédéon, qui est le président de la FABEC, la Fédération des associations des parents d'élèves. Monsieur Gédéon, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Merci d'être l'invité du ZTL News de ce lundi 22. La question qu'on pourrait vous poser, on a entendu que les écoles sont de nouveau fermées. La rectrice a fait un communiqué dans ce sens. Une fois de plus, un retour au distanciel. Étiez-vous préparé justement à cette situation?
Oui, ce que nous disons donc bonjour hein, aux téléspectateurs de Canal 10. Ce que nous allons dire, c'est que concernant la fermeture des établissements scolaires ce matin, nous considérons qu'il s'agit d'une position de sagesse. Il fallait effectivement, pour éviter qu'il y ait des problèmes sur nos routes, que les parents d'élèves, les enfants puissent rester bloqués sur les routes, il fallait effectivement fermer les écoles ce matin. Nous le regrettons parce qu'au niveau de la FAPEC, en tout cas, nous militons pour que nos enfants puissent aller à l'école. Nous restons persuadés que l'école, c'est quand même un lieu, c'est l'ascenseur social. Hein. On peut, et nous le disons, nous répétons que cette école-là n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite. Mais aujourd'hui, nous avons besoin justement que nos enfants retournent à l'école et notre combat, c'est faire en sorte de pouvoir améliorer cette école. Maintenant, concernant le distanciel, hein, je pense, en tout cas, nous espérons que la situation redeviendra normale très rapidement pour permettre aux enfants de pouvoir retourner dans les établissements scolaires, pour permettre aux enseignants de pouvoir retrouver leurs élèves. Parce que nous le savons, il n'y a pas la meilleure pédagogie, c'est quand même celle qui est dispensée en présentiel devant des enfants. Et notre souhait, c'est que la situation puisse redevenir normale.
D'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents? Parce qu'on sait qu'on parle de distanciel, mais tous les parents ne disposent pas, justement, on le sait très bien, de manière, d'outils pour que leur enfant puisse suivre une scolarité normale. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place, justement, pour ces parents?
Oui, mais ce que nous pouvons dire aux parents, c'est que nous espérons qu'il s'agit d'une situation provisoire. Maintenant, la situation en Guadeloupe, c'est une situation particulière. Aujourd'hui, c'est une situation explosive. D'accord? Donc, je crois que l'école, et nous ne cessons de le répéter, l'école ne vit pas en dehors de la société guadeloupéenne. Et c'est la preuve. Donc là, premièrement, au niveau de la FAPEL, nous allons déplorer, nous déplorons hein, tous les actes qui ont été commis, les actes commis d'ailleurs contre les établissements scolaires, nous le déplorons parce que nous pensons qu'il faut faire attention, il ne faut surtout pas qu'on s'attaque à nos établissements, qu'on s'attaque au niveau mobilier des scolaires, etc., etc. Mais nous disons également que quand nous voyons ce qui se passe en Guadeloupe, c'est quand même, ça prouve qu'il y a une situation sociale difficile. Quand nous voyons le nombre d'enfants sous les barrages, particulièrement de jeunes enfants qui auraient dû être non pas sous les barrages, mais dans leur groupe famille, on se pose des questions. On se dit, voilà, il y a une question de responsabilité de la famille. Nous appelons donc les familles guadeloupéennes à, effectivement, être responsables. Mais quand nous voyons également cette détresse de la jeunesse guadeloupéenne, nous disons à la FAPEC qu'il y a un échec du système éducatif en Guadeloupe. Et si ces jeunes-là sont là, c'est parce qu'ils ne se retrouvent pas, c'est parce qu'ils manifestent une souffrance, ils manifestent un désespoir, c'est parce que le système éducatif a échoué. Des jeunes aujourd'hui à qui on ne peut rien offrir, quand on voit effectivement la filière professionnelle, là pareil, on n'arrive pas à donner quelque chose aux jeunes. Il y a quelques années, à l'époque de l'AFPA, je me rappelle, il y a des jeunes qui partaient en formation, qui sortaient, qui étaient maçons, qui étaient pompiers, qui étaient, je ne sais pas, qui avaient une profession en main. Depuis quelques années, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, il faut, et après ce mouvement, j'espère qu'on va réunir tout le monde et que nous allons discuter sur la finalité de l'école en Guadeloupe. Quelle est la finalité de cette école? Cette école doit former quoi? Qu'attend la société guadeloupéenne de cette école? Je crois que pendant des années, il y a une réflexion qui avait été menée d'ailleurs dans les organisations syndicales. Et depuis, on ne parle plus, la réflexion s'est un peu arrêtée. Mais je crois que nous devons tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui sont dans le monde de l'école, nous devons relancer cette réflexion et pousser ceux qui décident en Guadeloupe, les autorités politiques, le rectorat, pousser tous ces gens-là à s'asseoir autour d'une table. Parce que quand l'école d'une société est malade, quand on voit par exemple la petite enfance, il n'y a pas de crèche dans ce pays de Guadeloupe, quand tous ces secteurs sont malades, forcément la société guadeloupéenne est malade. Et quand moi je vois autant d'enfants par exemple sur des barrages, autant de jeunes sur des barrages en Guadeloupe, je ressens une grande souffrance. Je ressens une souffrance parce que je dis que cette société-là, elle a échoué. On ne peut pas aujourd'hui se satisfaire de mots, on ne peut pas aujourd'hui se satisfaire de constats. Je crois qu'il faut passer à l'acte. Il faut effectivement mettre en place des éléments pour permettre à notre jeunesse, à ceux qui vont à l'école, de pouvoir réussir. Je crois que là, il y a effectivement la faillite d'un système éducatif et il est temps qu'on puisse, en tout cas ceux qui ont le pouvoir, que ces gens-là puissent se ressaisir.
La dernière question, Monsieur Gédéon, que se pose, est-ce que la FAPEL, vous avez un rôle de consultation ou vous avez un pouvoir quelconque, vous pouvez justement faire plier les politiques par rapport aux solutions que vous proposez ou pas?
Vous savez, hein, il nous arrive souvent d'interpeller les politiques. On adresse des écrits à nos politiques et très rarement nous sommes reçus par des politiques. Parce qu'on considère que voilà, il n'y aura pas les palais à l'eau, la fabrique de cité à l'eau, mais ce n'est pas c'est le cadre de leurs soucis. Et malheureusement, ce que je dis là, c'est valable pour la fabrique, c'est valable pour nombre d'associations Wallou. La vérité, on s'intéresse à ce genre de choses. On va s'intéresser aux questions à l'école quand effectivement il y a des difficultés dans l'école. Quand ça va chauffer dans les établissements scolaires, à ce moment-là, on cherche des représentants de parents d'élèves. Parce qu'ils doivent être là, ils doivent faire comme on dit chez nous, pour les bébés. Il faut qu'ils soient là. Mais quand nous disons asseyons-nous, faisons quelque chose, repensons de la FAPEC de quelques années, repensons l'école de Guadeloupe, essayons de comprendre ce qui se passe. Comme nous disons, par exemple, il n'est pas normal que des enfants puissent organiser des ventes de repas pour faire un petit voyage à la Dominique qui est à quelques kilomètres de la Guadeloupe. Personne ne nous répond. Nous disons aux collectivités, dégagez dans vos budgets une ligne budgétaire pour permettre à ces enfants-là, justement, de rentrer en contact avec la Caraïbe, qui est notre milieu naturel, pour qu'on puisse découvrir la Dominique, pour qu'on puisse avoir des échanges avec Cuba, avec Saint-Domingue, avec la Jamaïque et les autres pays de la Caraïbe. On ne répond pas aux sollicitations de la FAPEC.
Merci, M. Gédéon. On vous remercie de cette intervention sur nos antennes de Canal 10.
Voilà, moi je trouve que ce monsieur Michel Gédéon explique bien le problème profond de ce qui se passe là-bas. Et on voit bien aussi qu'en fait, l'obligation vaccinale qui arrive de l'État français, eux, ils s'en foutent en fait de la métropole. Ils ont envie, eux, de retrouver la culture antillaise, de se rapprocher, comme il le dit à la fin, hein, de la Dominique, du Cuba, des Caraïbes, quoi. Et on leur enlève tout ça. Donc effectivement, hein, quand on a une mauvaise on propose une mauvaise éducation, des formations qui débouchent sur aucun travail, qu'on t'enlève ta culture, je comprends qu'à un moment, ça pète, quoi. Et qu'on retrouve des jeunes de 15 ans sur les barricades, quoi. Voilà, c'est... je crois qu'il a un peu tout dit, hein. Lui, eux, ils proposent des trucs. Ils proposent d'aller s'asseoir à des tables de négociation pour essayer de trouver des solutions. Et comment réagit... L'État français actuellement, on leur envoie le GIGN, on leur envoie le RAID, on envoie l'armée. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais autour des ronds-points, quand même, il y a des images de l'armée, quoi, avec des fusils d'assaut pointés vers les habitants, quoi. Nous, déjà, on trouve ignoble d'avoir des flashballs et des pertes d'yeux. Mais eux, c'est des armes des armes de guerre qu'ils ont face à eux. Et... Mais par contre, dans les médias de métropole, on va entendre surtout quand la police se fait tirer dessus à balles réelles. Alors, je ne vais pas appeler à ça du tout. Hein, moi, je ne suis pas un pro-violent, hein, en tout cas pas envers les gens. Après, faire des blocages de ronds-points et voilà, faire du blocage économique, c'est ce que j'appelle une façon pacifiste, en fait. Alors, ce ne sera peut-être pas le cas pour les capitalistes. Ils ne trouvent peut-être pas ça que c'est pacifiste, mais pourtant, c'est non-violent envers les personnes. Mais bon, on peut comprendre le mal-être là-bas et la réaction que ça suscite actuellement. Et je pense que c'est pas fini, quoi. Ça va durer. Et peut-être même ce qui serait bien, c'est que le peuple métropolitain les soutienne et prenne exemple, peut-être.
Ouais, moi je voulais juste ajouter, parce que ici on parle, dans la Midinale, et puis souvent à Radio Picasso, on parle beaucoup de politique france-africaine et de politique de la colonisation. Ce qui se passe à la Guadeloupe, à la Martinique, en Nouvelle-Calédonie, ça n'est jamais que la continuation d'une politique coloniale. Et les violences policières exercées sur les personnes colonisées sont toujours extrêmement plus dures que sur les blancs, quoi. Aujourd'hui, ce qui se passe dans ces territoires-là, c'est la colonisation française.
Ouais, complètement. Ouais. D'accord.
Le reliquat.
On va écraser toute rébellion, toute parole contraire.
De toute façon, la réponse du gouvernement, elle n'est pas à la hauteur, puisque tu vois, le ministre de l'Outre-mer qui passe une journée en Guadeloupe.
Ah ouais, ça a été terrible. Je ne sais pas si vous avez vu aussi le cornu répondre à une habitante là-bas. Le cornu ose, mais il l'envoie complètement bouler, hein, il l'envoie chier, puis il lui dit « Non, mais écoutez, madame, moi, je pense que je viens plus du milieu du peuple que vous. » Ouais, d'accord, ok, ça, c'est la réponse du gouvernement, quoi. On comprend que le cornu veut pas trop aller là-bas, quoi. Je pense qu'il est pas à sa place, ce garçon, quoi. Mais de toute façon, c'est comme dans les institutions antillaises, quoi. On voit bien que les gens qui sont élus, enfin, où il y a beaucoup de blancs, qui vivent 5 ans ou 10 ans maximum là-bas, et en fait, on n'a rien à foutre à long terme de la vie des gens là-bas, quoi. Ils sont très bien représentés aussi.
Et quitte à être en train de parler de ça, de la continuation de la politique coloniale, on rappelle que le 12 décembre, donc très prochainement, en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, il y a un référendum qui va être organisé. Un référendum qui va être organisé contre l'avis des indépendantistes, pour faire très court, pas sur l'organisation du référendum, mais sur le délai d'organisation, puisqu'ils subissent une situation liée au Covid qui est très compliquée. Et du coup, ils n'ont pas pu faire la campagne d'information comme elle aurait dû être faite. Pour ça, comme pour plein d'autres sujets en lien avec les politiques coloniales françaises, on vous renvoie au site de Survie Nationale. Il y a une grande campagne qui est en train d'être faite d'information, de soutien sur ce référendum en Kanaky-Nouvelle-Calédonie.
Yes. Merci, Steph.
Bon. Bon. Je pense qu'on a... Moi, je vous invite à suivre, si vous voulez vraiment des vraies infos de ce qui se passe aux Antilles. L'exemple d'aller voir, d'aller choper des infos sur place qui viennent de là-bas. Alors, Canal 10, c'est peut-être pas non plus le meilleur média, je sais pas, mais apparemment, les Guadeloupéens lui font confiance. J'avoue que pour savoir ce qui s'y passe, je préfère aller voir sur Canal 10. Quoi. Donc, on retrouve des vidéos sur YouTube, même si ça met 3-4 jours à peu près à être mis en ligne. Mais en gros, là, le ZCL News là, de Canal 10 est posté sur YouTube assez régulièrement. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. On y reviendra sûrement.
On va se faire une petite pause musicale. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va passer de beau ?
Alors là, on a Allons Enfants de La Canaille. Et après, on aura Rêve à Versailles de Contrefaçon Bagarre, c'est ça ?
C'est ça.
Allez, à tout de suite.
Conservatrice, et il est l'heure, je veux des preuves de ton sens du sacrifice. Allez, lève-toi, bats-toi, tue pour moi. Fais couler le sang impur sans demander pourquoi. Viens, suis-moi, je suis la plus belle cause pour mourir. Au nom de toutes tes bouches à nourrir, contiens ta douleur, fais ton devoir avec passion. Question d'honneur pour la grandeur de la nation. Les traîtres et les ordures, moi je leur plante mon drapeau. Et à grands coups de clairon, je les torture, je les Guantanamo. Ne t'habille surtout pas de renier ton pays. Je te veux docile, écoute et obéis. Donc je la défends. Testostérone à bloc, je donne dans la gonflette. Ni mauviette, ni tantouze, j'ai l'esprit de compète. L'esprit de conquête, un fait pour les coups bas. Chauvin, vu de moi, je revendique la grosse tête. Je me complais que dans l'excès, la démesure. Homme d'exception, je viens marquer l'histoire, ma signature. Je kiffe les bains de foule qui donnent l'assise à mon statut. Ces grandes messes populaires qui t'en mettent plein la vue. Je prends mon pied dans les tribunes de tous les stades. Ces jours de fête, étendard levé, je parade. La foule m'acclame et ses gosses sous mon emprise. Et moi je rigole quand ça déborde, quand elle se radicalise. Animé par le désir de dominer, je suis né pour briller. Faire savoir au monde entier. En temps de crise, je gonfle mes rangs dans la misère. Je divise et encourage le repli communautaire. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Je croque les faibles, je m'étends, je les repousse. Je fonce sur tous les fronts, refuse de ronger mon frein. Je sais qu'au bout du compte, il ne peut y rester qu'un. Fier de mes frontières, je choisis mes étrangers. Si je pouvais les autres, je voudrais tous les étrangler. Les mettre au pas, leur montrer qui c'est le patron. Piller leurs richesses avant de brûler leurs maisons. Violer leurs femmes et purifier enfin leur gêne. J'aime entendre leurs cris pour apaiser ma haine. Je voudrais les voir se prosterner devant mon Dieu. Je leur imposerai mes valeurs, fusil chargé entre les yeux. diriger tout un empire. Je suis la race élue, j'ai foi en l'avenir. J'ai vu les plus grands chefs s'asseoir à ma table. Je les oriente, les conseils me sont tous redevables. À mon actif, une pléthore de coups d'éclat, de somptueux complots, de mes bases, de coups d'état. J'ai l'art et la manière de servir leur noir dessein, de raviver ce feu même s'il te paraît éteint. Je suis le silence des pantoufles avant le bruit des bottes. Souveraineté légitime, j'ai l'appui du bulletin de vote. Et ouais, petit, j'ai la main mise au jeu des urnes, simple formalité que je règle en réunion nocturne. J'ai la force de déplacer les montagnes, les craintes. Avec moi, tu marqueras même la lune de ton empreinte. Abreuve-toi de mon sillon, ensemble tout devient possible. Sous mon couvert, la pire ignominie paraît crédible. J'érige des monuments à la gloire de mes martyrs et distribue de 3 médailles aux soldats qui ont pu revenir. Éternellement reconnaissant, une salve à l'enterrement, je lâche des fleurs leur mémoire une fois par an. Je suis la propagande officielle, ma face sur tous les murs, j'avance béni du ciel. Je diabolise l'ennemi selon mes intérêts, joue sur tes peurs pour que la hache soit déterrée. Je sais très bien comment te retourner le cerveau, je te travaille au corps jusqu'à trouver ta faille. Vulgaire char à canon, je ne donne pas cher de ta peau. Je suis ce vent qui rend fou dans les champs de bataille. Le ton, les mots qu'il faut, le chant parfait. Je fanfaronne, galvanise les troupes et mets le paquet. Je suis la voix du patriote aux yeux de braise. Tu connais bien une de mes filles, on la surnomme la Marseillaise.
Thank you. public.